Et c'est parti. Alors avec moi sur ces experts de l'IA, Manuel Davy, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être venu. Vous êtes président de la Cité de l'IA. On va reparler. Vous êtes un peu à l'origine de tout ça. Hein, de,
on n'y est pas pour rien.
Ouais, de tout ce ramdam, voilà, mais très bénéfique pour l'IA et pour la région de France. Avec nous également Emmanuel Durand. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Président du directoire d'Eura Technologies. Et Robin Rivaton. Bonjour Robin.
Bonjour.
Que vous connaissez bien sur les antennes de BFM Business, CEO de Stonal. Manuel, justement, alors juste un mot sur la Cité de l'IA et nous dire pourquoi vous êtes un peu l'usuel suspect voilà, de ce grand ramdam. Rassemblement aujourd'hui à Lille.
Oui, alors d'abord la Cité de l'IA, c'est un réseau d'entreprises qui compte aujourd'hui à peu près 150 entreprises adhérentes, principalement de Hauts-de-France, hein, qui à elles toutes font à peu près 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, il y a des très grands groupes, il y a aussi des ETI et des PME, et on a souhaité également qu'il y ait les incubateurs, qu'il y ait les académiques, les écoles, parce que notre rôle en fait c'est d'agiter cet écosystème de l'IA dans la région pour permettre à nos entreprises d'être plus en pointe sur cette technologie qui est absolument fondamentale pour elles dans le futur.
Alors, et le fait de ce salon, là, c'est parti d'où d'avoir ce sommet. Alors, on le rappelle, c'est un peu le point de départ, parce que toute la semaine, il va y avoir plein d'événements. Je crois que demain, il y a un événement à Amiens. Enfin, dans les Hauts-de-France, il y a plein d'événements autour de l'IA. Il y a un festival de l'IA, ça démarre demain jusqu'au 19. Voilà, pourquoi ce sommet aujourd'hui?
Alors, l'an dernier, on a organisé notre grand sommet de l'IA de la Cité de l'IA, donc avec une échelle peut-être un peu plus modeste en termes de grandes personnalités internationales, mais très orientée business, et ce qui a été un grand succès. Et les équipes de l'Élysée qui étaient présentes ont décidé à ce moment-là de positionner ce sommet que le président souhaitait faire dans la région de Hauts-de-France, parce qu'ils ont compris qu'il y avait ici une énergie exceptionnelle autour de l'IA, qu'il y avait un savoir-faire, une volonté aussi de la région de se booster sur ce sujet. Donc c'était tout à fait normal par rapport à tout cet écosystème de venir ici aujourd'hui.
Et donc de lancer cette grande journée. Hein. Et puis ça se joue à guichet fermé. Hein. Je crois qu'il y a, c'était 1200 personnes prévues, mais je crois qu'on est beaucoup plus hein, déjà ce matin.
Tout à fait, oui, il y a beaucoup de monde.
Et pas mal de conférences. Alors avec nous également Emmanuel Durand, donc président du directoire d'Eura Technologies, donc qui nous accueille ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Eura Technologies, c'est une ancienne usine industrielle qui a été totalement rénovée. Alors, ça fait pas mal d'années déjà.
Ça fait 17 ans. Effectivement, c'est né d'une ambition politique portée par Pierre de Saint-Aignan, qui de cette friche industrielle où on m'a dit que les gens n'osaient pas aller tellement c'était dangereux, a fait naître un écosystème qui aujourd'hui compte à peu près 600 entreprises, une dizaine de milliers d'emplois, etc. Donc il y a un impact sur le territoire absolument incroyable.
Et de gros événements, je crois que vous organisez presque 500 événements par an.
Absolument.
Ça, oui. Ici même. Et avec vous, on va parler justement de l'attractivité de Lille et puis IA et emploi, parce que c'est un des thèmes aussi dont on va beaucoup débattre aujourd'hui. Robin, parlons justement, donc merci d'être avec nous, parlons justement de ce qui se passe en ce moment. Alors, aujourd'hui est une journée un peu particulière. On est tous un peu focus sur la grande entrée en bourse de SpaceX hein, et de tout l'environnement. Il y a SpaceX, il y a Starlink, il y a XAI, il y a quand même une partie intelligence artificielle. Ça va donner un peu le ton sur les autres entrées en bourse. On attend celle d'Anthropic, on attend celle de OpenAI. Pourquoi, malgré tout cela, on ne se sent pas totalement décroché ici quand on est en France et plus particulièrement ici dans les Hauts-de-France?
Je pense qu'il faut totalement décorréler la spéculation boursière autour de ces grandes entreprises de l'intelligence artificielle, que ce soit des fabricants de modèles ou qu'elles soient des fabricants de mémoire ultra rapide, type les Sud-Coréens, Samsung, SK Hynix. Il faut décorréler cette spéculation boursière de l'impact concret de cette technologie sur nos entreprises. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin du dernier modèle, de la dernière génération de modèles de langage étendu pour déjà faire des gains de productivité au sein de nos entreprises. On n'a pas besoin d'avoir forcément, on peut avoir une IA qui peut être open source, on peut avoir une IA qui est propriétaire. Mais le vrai enjeu pour moi, c'est de faire en sorte, et on avait fait lors du Tour de France de l'IA organisé par le MEDEF et le Numéum, dont j'étais l'ambassadeur, on avait fait une excellente étape à la Cité de l'IA avec beaucoup, beaucoup de monde en fin d'année 2024. L'idée, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises puissent utiliser ces modèles. Et la vraie révolution, elle ne sera pas d'avoir une méga entreprise géniale. La vraie révolution, c'est que chacune de nos entreprises permette de faire 0,5% de gains de productivité supplémentaire. 0,5% de gains de productivité supplémentaire par an, ça paraît anecdotique, mais en France, on stagne depuis 2014 en termes de productivité horaire. Donc 0,5, c'est un changement radical sur 15 ans. Ça fait 20% de productivité supplémentaire, ça change complètement la face d'un pays. Donc l'enjeu, c'est bien d'avoir des géants, c'est bien d'avoir des vitrines, mais même si on n'en avait pas, Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à la question du déploiement au sein du tissu économique, industriel, serviciel, commercial de ce pays.
Oui, puis c'est bien d'avoir quelques porte-drapeaux aussi.
Très bien.
Voilà, on a un Mistral, mais on en a d'autres qui sont en train de monter autour de tout ça. Manuel Davy, les entrepreneurs, enfin les patrons de PME, de TI qui font partie de la cité de l'IA, aujourd'hui, comment ils perçoivent justement l'IA? Parce qu'évidemment, nous, on voit un peu le côté bénéfique, voilà, davantage de productivité, on apprend plein de choses, enfin voilà, vraiment un accompagnement au quotidien. Il y a quand même quelques côtés, on a des craintes sur l'emploi. Enfin voilà, comment ils perçoivent et quelle est leur maturité sur ce sujet?
Alors, dans les membres de la Cité de l'IA, la maturité est, je dirais, exceptionnellement haute par rapport, évidemment, à l'intérêt que portent les entreprises. Je vous donne quelques chiffres. On a 70% quasiment de nos membres et de notre écosystème, des entreprises qui disent qu'elles sont avancées sur l'IA. Il y en a quasiment les trois quarts aujourd'hui qui ont lancé des plans de formation généralisés et il y en a à peu près 20% qui anticipent des évolutions des postes. Donc ça traduit à la fois l'enthousiasme des entreprises et aussi la prise de conscience qu'il y a des vrais changements internes qui peuvent être difficiles, notamment autour de l'évolution des emplois. Les entrepreneurs, globalement, ne craignent pas de la destruction massive d'emplois. Ils voient vraiment l'opportunité. Mais par contre, ils se disent, oui, il y a quelques risques qu'on doit piloter sur la transformation des métiers, sur la souveraineté, notre capacité à rester autonome et indépendant, la sécurité des données. Donc, c'est des préoccupations très opérationnelles, en réalité. Et sur la volonté d'y aller sur l'IA, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de questionnement de la part des entreprises.
Oui, ils savent qu'il faut y aller. Emmanuel Durand, IA et emploi, comment on l'aborde d'un point de vue entrepreneurial, selon vous?
C'est vrai que c'est une vraie question parce que l'objet en fait d'Aura Technologies, c'est de créer de l'emploi dans la région. Nous, on a un rapport à l'IA qui est peut-être une problématique différente de celle que tu adresses, Manuel, au sein de la cité de l'IA, puisque ta problématique, c'est d'intégrer l'IA dans les entreprises. Et pour nous, c'est de créer des entreprises
autour de l'IA.
Autour de l'IA, en bénéficiant de l'IA, avec deux typologies, ceux qui l'utilisent et ceux qui construisent des solutions. On le voit. De manière presque plus générale, chaque rupture majeure comme ça a amené en fait son lot de questionnements sur les emplois qui allaient disparaître, etc. Il y a un économiste qui a établi un paradoxe de Jevons où chaque rupture technologique majeure crée autant d'emplois finalement que d'anciens qui disparaissaient. Et je vais faire une punchline, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
Oui.
Donc on regarde beaucoup plus effectivement les entreprises qui souffrent et les emplois qui risquent de disparaître que ceux qui sont en train actuellement de naître. On le voit dans l'entrepreneuriat, il n'a jamais été aussi facile de créer une entreprise qu'aujourd'hui. C'est pas une question d'accès au capital, etc. C'est simplement que la barrière à l'entrée d'arriver à produire quelque chose devient beaucoup plus accessible.
Après, c'est la partie passage à l'échelle, quoi. C'est
absolument. Et notamment, on sait qu'on va avoir notamment donc une explosion en fait du nombre de produits, notamment logiciels, qui vont arriver. Et c'est leur distribution qui va devenir le goulot d'étranglement. Et c'est là où, de nouveau, en fait, la concurrence va s'exprimer.
C'est quoi les besoins des startups IA que vous hébergez ici?
Alors nous, reconnu par nos startups comme étant extrêmement utile, des partenariats technologiques avec des acteurs un peu majeurs, que ce soit dans le quantique avec Pascal ou dans le cloud avec Microsoft, Azure, etc. Il y a des problématiques qui reviennent extrêmement souvent qui sont la souveraineté, le cyber, parce que l'IA vient avec son lot de problématiques de failles de sécurité et donc on voit bien qu'en fait ce sont des sujets qui étaient toujours un peu dans le fond et qui avec l'IA se retrouvent un peu propulsés quand même un peu plus sur le devant de la scène. Donc ces notions de se dire effectivement on ne veut pas être dépendant d'un modèle qui peut être demain unplugged par un allié qui devient un adversaire, me suivez mon regard. Donc ces notions de continuité économique deviennent cruciales.
Ça, c'est un sujet souveraineté, Robert Yvaton, qui est vraiment monté. Hein. C'était une petite musique voilà, dans la tech. Voilà, on dit oui, il faudrait qu'on soit davantage souverain. Là, c'est Donald Trump qui est. Mais l'élan était donné. Hein. Obama, Biden étaient déjà très américains. C'était pas mec américain, grec, again, mais c'était quand même priorité aux Américains. Bon, Donald Trump l'a fait de façon beaucoup plus brutale et beaucoup plus visible. Mais on a senti du coup On sent vraiment que ce côté souverain fait partie, alors avec plein de choses, tout ce qu'on peut mettre sous la souveraineté, l'indépendance technologique, l'autonomie stratégique, l'autonomie économique, mais on sent que c'est parti sur ce sujet-là.
Déjà, première remarque, effectivement, la pensée stratégique américaine ne changera pas avec le départ de Donald Trump. C'est un moment beaucoup plus profond.
Oui, on ne reviendra pas en arrière.
Donc ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, la question de la souveraineté, elle se confonde beaucoup avec la question des coûts. Elle redevient avec une question microéconomique, tout simplement parce qu'on se rend compte que les modèles dernière génération, les modèles à la frontière, ont des coûts qui sont aujourd'hui déraisonnable par rapport à ce qu'est l'activité économique et par rapport aux gains de productivité qui sont réellement générés. Et donc, vous avez beaucoup de papiers ces temps-ci qui ont signé la fin du token maxing, donc la consommation excessive de tokens. Et c'est un mouvement qu'on voit dans les entreprises, même des entreprises qui sont très avancées, qui sont très innovantes, commencent à se dire effectivement, pour tel cas d'usage extrêmement précis, j'ai besoin du dernier modèle frontière. Mais en fait, le modèle à 80% de capacité équivaut seulement 1% du coût du modèle frontière, il est peut-être très bien pour plein de cas d'usage. Et donc on arrive dans une phase où la question de la souveraineté va se reconjuguer avec des questions économiques, oui, microéconomiques, et les modèles open source ou des modèles beaucoup moins chers vont regagner en importance parce que les gens vont se dire c'était bien d'avoir testé, j'ai testé plein de cas d'usage, je vois que j'ai des retours et des coûts. Et parfois, le ROI est faible. Et donc, le meilleur moyen de re-augmenter le ROI, c'est de baisser le coût de ces solutions. Et donc,
on ne regarde plus seulement la performance, mais on regarde vraiment... Parce qu'en plus, parfois, c'est la performance, l'écart n'est pas aussi important.
Oui, aujourd'hui, l'écart entre un modèle open source va être de 20% par rapport à un modèle frontière, pour le meilleur modèle open source. Et l'écart de prix va de 1 à 100. Donc, objectivement, vous pouvez vous poser des questions légitimes. Et donc ça va rejoindre la question de la souveraineté parce qu'en fait les gens qui peuvent fournir des modèles, qui peuvent utiliser des modèles open source en local ou qui peuvent fournir des solutions domestiques, je pense à Mistral ou à d'autres acteurs européens, on peut penser aussi aux Canadiens de Coair, enfin bref, à des acteurs qui sont hors du champ des États-Unis ou de la Chine, ces solutions-là vont gagner en importance et donc elles vont faire regagner en souveraineté de manière incidente.
Justement, sur cette partie souveraineté, Manuel Davy, alors je le disais tout à l'heure, de belles annonces lors de Choose France, notamment SoftBank, et c'est vrai que la région, ici, on en parlait avec Emmanuel Durand, va pas mal en bénéficier. Hein.
Alors effectivement, elle a des très beaux atouts à faire valoir, il y a effectivement du terrain situé à suffisamment près des sources d'énergie et puis des réseaux informatiques pour pouvoir avoir une implantation qui a du sens. Donc il y a effectivement plusieurs grandes vagues d'investissements qui sont annoncées pour notre région, et c'est une énorme chance, donc on accueille évidemment tout cela avec plaisir, avec l'idée que ce soit aussi un nœud névralgique peut-être de l'IA, non seulement en France, mais également en Europe, puisqu'on est connecté près des frontières ici, donc c'est effectivement une très belle annonce. Après, sur les data centers, je pense qu'il y a une vague actuellement d'équipements qui est tout à fait nécessaire. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, les microprocesseurs des PC évoluent et que très bientôt, on aura chacun notre modèle sur notre PC.
Sur le PC, oui.
Et donc, le rôle des data centers, qui reste un élément fondamental, va aussi évoluer dans le temps. Donc, il faudra rester vigilant aussi à cette évolution technique.
Oui, sur ces investissements, justement, qui ont été annoncés, Emmanuel Durand, votre regard ?
En fait, c'est aussi la conséquence d'une surcapacité d'électricité décarbonée.
Oui.
On en parle peu, mais on est quand même un pays qui en pointe sur ces sujets. Ça représente un atout, et les Hauts-de-France sont évidemment en première position. Des 75 milliards, a priori 45 milliards sont fléchés vers les Hauts-de-France.
C'est ce qui est annoncé en tout cas.
Absolument. On verra sur le déploiement, mais en tout cas...
La promesse est là.
L'envie est là.
L'envie est là.
Je suis un nouvel arrivant, moi, dans le Nord. J'étais parisien jusqu'à il y a 6 mois et j'ai pris mes fonctions en janvier. Et donc, je suis très sensible à des signaux que les gens de l'écosystème qui sont là depuis longtemps peut-être voient moins. J'ai été surpris.
Comme cet événement, par exemple. Là, on voit, c'est quand même... Enfin, pas étonnant, non, mais de voir autant de monde sur un événement, il y a 3 semaines, il n'existait pas. Presque, c'était...
Mais réellement, en fait, la question que je me posais en venant ici, c'était est-ce qu'on peut faire de l'innovation, faire de l'entrepreneuriat en dehors de Paris ? Est-ce que la France, qui est très centralisée, aspire les projets vers la capitale ? Ça peut être vrai dans une certaine mesure, mais on le voit, ici, il y a des atouts que Paris n'a pas. En termes d'infrastructure, en termes de prix du foncier, en termes d'accès aux talents. Il y a un pool d'écoles de très haute qualité. On voit une boîte comme Exotech, par exemple, qui choisit de s'installer dans le Nord qui fait des robots.
Robots pour les entrepôts.
De logistique, absolument. Et qui choisit de s'installer dans le Nord parce que prix du foncier plus capacité à attirer des talents, en fait. Donc on a, en fait, une conjonction d'éléments favorables qui en font un lieu idéal pour nourrir les projets. Et Euratechnologie est destiné à être le vaisseau amiral de ce type de choses, en étant finalement un catalyseur de ces différents éléments, comme aujourd'hui, en les ramenant dans un lieu qui permette d'être un accélérateur de particules, on va dire.
Robin, c'est important cette décentralisation, parce que c'est vrai que faire vivre les régions, alors nous BFM Business, notre actionnaire est basé à Marseille, donc lui aussi essaie de faire rayonner sur la région sud, la région lyonnaise est assez importante. Enfin voilà, on voit toutes ces régions qui essaient et l'IA peut être un moyen d'attirer davantage de talents, d'entreprises, et création d'emplois.
Encore une fois, la révolution de l'IA, ce sera la révolution des usages et le fait que toutes les entreprises de tous les secteurs, de tous les territoires utilisent l'IA. Si la révolution de l'IA, c'est la création de quelques champions dans les zones métropolitaines les plus dynamiques, ça sera une révolution qui sera un feu de paille. Ça ne sera pas non plus que des data centers. Les data centers, c'est des infrastructures qui sont essentielles, mais sur les territoires où elles sont installées, c'est pas ça qui les fait gagner en richesse. Ce qui les fait gagner en richesse, c'est quand, encore une fois, vous avez une entreprise, qu'elle soit dans le commerce, qu'elle soit dans l'industrie, qu'elle soit dans le transport, qui réussit à faire des gains de productivité, pas magiques, mais juste un petit peu plus, à faire mieux. Et le gros enjeu, et ça je pense c'est très important dans les prochains mois, ça va être le passage des gains de productivité de l'échelle individuelle à l'entreprise. Aujourd'hui, on voit des gains de productivité individuelle qui sont très marqués. On le sent tous les gens qui utilisent l'IA font des gains de 10, 15, 20, 30%. Aujourd'hui, à l'échelle des entreprises, ces gains ne sont pas encore évidents. Pour une simple et bonne raison, pour que les gains individuels se transforment en gains collectifs, il faut réorganiser les process. On l'a vécu lors de l'introduction du remplacement de la machine à vapeur par la dynamo, lors d'électricité. Les gens avaient des usines, ils ont changé le moteur, rien n'a changé, la productivité est restée la même. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dû passer ? Il s'est passé, ils ont reformaté les processus de production au sein de l'usine, et tout d'un coup, la productivité, grâce à l'électricité, a explosé. C'est exactement la même chose dans les métiers de service. On ne produit pas du service tout seul dans son coin. On produit du service en étant dans une chaîne d'acteurs qui discutent les uns avec les autres, qui se coordonnent. Et si on ne fait pas ce travail de modification des processus de production, en fait, la coordination remange les gains de productivité qu'on peut faire. Donc, je pense que la prochaine étape, et c'est pour ça que ces événements sont très importants, parce qu'ils permettent d'acculturer les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés, les syndicats, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fera juste par la volonté du chef d'entreprise, au besoin de reformater, de changer les process. Dans ce changement de process, il peut y avoir des disparitions d'emplois. Il ne faut pas dire qu'il n'y en aura pas, ce ne serait pas vrai. Mais aussi d'emplois. Ouais. Je pense qu'il faut être à un moment, il faut avoir un discours de vérité. Donc, ça veut, au global, au net, ce sera une révolution qui sera positive. Il y aura plus d'emplois qui seront créés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'emplois qui seront détruits. Mais il faut être conscient de ça. Ça veut dire qu'il y a des tâches qui vont être modifiées. Et ça, ce discours sur la plasticité des organisations, pour moi, il est absolument important. Parce que la tentation de beaucoup de gens, c'est de se rigidifier par rapport au changement. Et donc, on a une techno, on paye cette techno, on a des effets à l'échelle individuelle, mais on n'arrive pas à les traduire à l'échelle collective.
Mais d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, d'ailleurs, si vous en avez l'occasion, d'écouter l'audience parlementaire de Arthur Mensch, le patron de Mistral. Voilà, ça dure une heure et quart. Enfin, c'est très intéressant. Et il le dit lui-même, même chez Mistral, les taux de productivité individuels sont très importants, mais dès qu'on met ça, et pourtant, voilà, Dieu sait s'ils doivent aller vite, s'ils doivent calculer la productivité des équipes, et bien, dès qu'on met ça au niveau des équipes, là, ça chute considérablement. Ce changement des process, c'est ça. C'est ce qu'il faut voir aussi, Manuel Davis. L'IA, c'est pas juste un outil, une plateforme. On se forme et puis après, voilà, on l'utilise comme on utilisait nos logiciels un peu classiques. C'est une vraie transformation, je rebondis sur ce que dit Robin. C'est une transformation des processus. Il faut que des gens dans le métier disparaissent, rebasculent vers d'autres métiers. On travaille différemment.
Absolument. Et souvent, d'ailleurs, l'angle que prennent les entreprises autour de l'IA, c'est de l'aborder par un angle technologique, c'est-à-dire les data, les algorithmes, les agents. Et assez vite, elles se rendent compte que finalement, elles ont négligé l'essentiel. L'essentiel, c'est d'embarquer les personnes, d'embarquer chaque opérateur, chaque équipe dans cette transformation. Et comme l'a très bien dit Robin, c'est d'avant tout des sujets de transformation de process. Et donc, cette phase-là, on voit que les plus avancés ont commencé à l'aborder. Ça reste une transformation difficile parce que l'IA suscite beaucoup de questions, parfois aussi de la peur. Oui. Mais c'est vraiment cet enjeu-là qu'il faut qu'on réussisse à adresser aujourd'hui.
Et puis, je vous interromps, et puis en plus, ce qui se passe aujourd'hui avec cette technologie, c'est qu'elle avance au galop. Donc on a l'impression toujours de... On installe une version que déjà la nouvelle version ou celle du concurrent est arrivée, donc ça perturbe aussi.
Il y a un sentiment de submersion et il est essentiel d'ailleurs que les responsables des entreprises, les dirigeants, les cadres sachent prendre aussi un pas de recul par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi un cœur technologique qui lui est relativement stable. En fait, c'est la façon dont il se décline dans les usages qui donne le sentiment de vitesse. Mais à un moment donné, si on veut construire long terme, il faut aussi savoir prendre ce pas de recul et se projeter de manière raisonnable sur ce qui va arriver technologiquement, qui sera peu ou prou assez proche de ce qu'on a aujourd'hui avec une spécialisation peut-être plus avancée.
Et Emmanuel, vous voulez
Je voulais rebondir parce qu'il faut effectivement être capable de séparer la vague de l'écume. Oui. Les entreprises américaines sont très très fortes en annonces fracassantes. Ils sont à la veille de découvrir ce qu'ils appellent l'AGI, l'intelligence artificielle générale. De plus en plus de voix discordantes commencent à dire que ça ne va pas être le cas avec les modèles actuels qui vont à un moment donné plafonner.
Il y a la vague agentique maintenant, on ne comprend pas.
Absolument. Et effectivement, ces annonces fracassantes créent un sentiment d'obsolescence chez tout le monde, y compris chez des gens qui sont très 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 forts, d'être toujours en train de courir derrière et de ne pas maximiser l'impact qu'il pourrait en avoir. Et je pense qu'il faut se mettre en mouvement avec beaucoup de sérénité par rapport à ça et effectivement se dire l'important c'est d'être dans cette dynamique, d'être dans ce mouvement. Et il y a une dimension au-delà des process psychologiques, de se dire comment effectivement on arrive à faire travailler les gens individuellement et collectivement avec ces nouveaux outils.
Oui, c'est ça, pouvoir garder le rythme d'innovation et puis en même temps ne pas se laisser éblouir un peu par ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine. On parle pas des Chinois, mais les Chinois vont...
Et ne pas se laisser tétaniser parce qu'on avait vu beaucoup avec des patrons de PME qui disaient mais en fait je vais attendre que la poussière retombe et que les choses soient stabilisées, solidifiées pour me lancer dans cette démarche-là. Et c'est la pire des choses. En fait, il faut prendre le mouvement a débuté. Encore une fois, il y a les incréments ou les progrès marginaux des modèles aujourd'hui concernent des fonctions très très spécifiques. La réalité, c'est que la plupart des cas d'usage des métiers du tertiaire et du service peuvent être adressés avec des modèles déjà existants. Et donc, le coût de ces modèles les rend de toute façon destinés à vraiment des cas d'usage extrêmement, extrêmement spécifiques. Donc, je pense qu'il est temps de prendre la balle au bon, si je puis dire. Et surtout, il ne faut surtout pas avoir peur de ce sentiment d'obsolescence, d'agitation permanente, et encore moins de ces prophéties qui, effectivement, sont essentiellement, je pense qu'on peut le dire, à viser marketing, mais servent à tenir un discours qui justifie les valorisations complètement dingues de ces sociétés, de ces sociétés-là.
J'allais le dire aujourd'hui, alors même si c'est pas de l'IA pure, mais il y en a beaucoup chez SpaceX, voilà, c'est complètement ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, on va voir quels sont les résultats au final, mais la valorisation d'un SpaceX aujourd'hui, enfin, c'est complètement fou. 1800 milliards pour une entreprise qui réalise quoi, c'est 18 milliards de chiffre d'affaires, enfin, qui a des pertes.
Elle a 90 fois le revenu en termes de.
C'est tout ça complètement dingue.
Pour l'anecdote, dans les premiers document d'investissement de OpenAI, il y avait une clause qui disait que les investissements devenaient caducs à l'arrivée de la fameuse AGI, puisque de toute façon on serait dans une société post-argent.
Oui.
Donc en fait, voilà le type de promesse de dire voilà, on va complètement révolutionner le travail, on va révolutionner le rapport au fait de l'argent, etc. On s'aperçoit aujourd'hui, c'est incantatoire. En fait, on va avoir un outil qui va être aussi important que peut être l'Internet ou l'email ou ce qu'on utilise aujourd'hui. Il ne viendrait pas à l'idée d'une entreprise de ne pas utiliser les emails aujourd'hui. Valvia, c'est pareil. Il faut l'inclure dans le stack des outils qu'on utilise. Et voilà.
Et y compris au point de vue du citoyen, puisque c'est le but de ce sommet aussi, c'est de parler beaucoup des usages, des usages pour les entreprises, des usages pour nous tous. Mais si on va marquer une courte pause, on va revenir ensuite parler, tiens, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'éducation, tout ce qui se transforme dans l'enseignement. Aujourd'hui, on est dans la région des Hauts-de-France, donc voir tout ce qui peut être fait aussi dans les régions. Voilà, les experts de l'IA, depuis Lille, le grand sommet de l'IA, c'est à Lille, c'est en direct. On se retrouve dans un instant sur BFM Business.